Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On se demande souvent s'il y a encore des idées à gauche, plus précisément encore à gauche dans la social-démocratie. Il y a des entités qui sont censées créer des idées, en fabriquer. Ce sont ces fameux think tanks. L'un d'entre eux s'appelle Terra Nova. Thierry Pech, vous en êtes le directeur général. Bonjour.
Bonjour.
Terra Nova a 10 ans cette semaine et pour tenter de faire le point sur les idées qui ont été apportées au débat politique, j'ai décidé de vous inviter peut-être tout d'abord une définition de ce qu'est Terra Nova et de ce qu'est un think tank.
Alors Terra Nova est un think tank progressiste, indépendant et notre vocation c'est de faire des propositions de politique publique. Pas à un parti, pas à un gouvernement en particulier, mais à l'ensemble des responsables publics. Donc on fait des propositions, on essaye de trouver des solutions à nos problèmes, si on veut le dire de façon simple. Mais on fait aussi, bien sûr, de la critique des politiques publiques. C'est-à-dire quand les politiques nous paraissent mauvaises ou discutables, on s'exprime parfois un peu bruyamment, d'ailleurs, pour dire ce qu'on en pense.
On va voir ça, alors, en parlant de problèmes de la démocratie, puisque vos 10 ans, vous les fêtez avec un colloque qui est consacré aux 10 années de crise de la démocratie. Et nous avons sous les yeux une crise. Cela fait un peu plus de 500 jours qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il y a déjà eu 7 démissions de ministres. Alors 5 étaient des démissions pures, 2 étaient des départs contraints. Je pense à ceux de Richard Ferrand et de Laura Flessel. Gérard Collomb a démissionné hier. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il y a deux démissions évidemment un peu plus retentissantes que les autres ces derniers mois, c'est celle de Nicolas Hulot et celle de Gérard Collomb, parce que ce sont des gens qui s'en vont de façon délibérée, l'un parce qu'il n'en peut plus et l'autre parce qu'il a envie d'aller ailleurs officiellement. Donc voilà, ça m'inspire quoi ? Personnellement, j'avais pas une très grande sympathie pour la politique que conduisait Gérard Collomb. J'avais déjà eu l'occasion de le dire publiquement. Donc je suis moi pas fâché de le voir quitter ce poste.
Au-delà de ça, et, habituellement, être ministre, c'est une mission. C'est un peu comme être pape. On ne démissionne pas, sauf si on a un désaccord absolu avec le chef de l'État. Alors peut-être est-ce le cas. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet, Thierry Pech. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est symptomatique qu'il y ait autant de ministres qui préfèrent cesser de l'être ?
Je pense qu'il y a une usure du pouvoir et une usure de l'équipe des commencements. Ça, c'est, je crois, tout à fait évident. Je pense qu'on avait constaté à peu près la même chose pour les équipes précédentes. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce régime qui concentre tous les pouvoirs sur le président de la République, et donc sur lui aussi tous les reproches, fait que la démission d'un ministre devient un problème pour le président de la République, beaucoup plus que pour le Premier ministre. On va fêter demain le 60e anniversaire de la constitution de la 5e République.
Et on fêtera d'ailleurs cet anniversaire ici même dans les matins de France Culture.
Mais franchement, quand on regarde ce qu'elle était à ses commencements et ce qu'elle est devenue, elle s'appelle toujours la 5e République. Mais elle a tout de même dérivé dans une logique présidentialiste très forte et qui, moi, m'inquiète parce qu'au fond, on revit la même saison de la même série depuis maintenant des années et des années. C'est-à-dire qu'arrive un pouvoir qui s'installe. Les Français l'ont construit autour de l'élection présidentielle. Ils adorent l'élection présidentielle et au bout de 2 ans, tous les feux se concentrent sur le président de la République. Et il devient la personne sur laquelle pèsent toutes les responsabilités. Je pense que passer.
C'est pas sa faute aussi un peu ?
Mais bien sûr, chacun a des responsabilités, sans doute. Et ce que disait Gérard Collomb pour le coup sur l'hubris ne me paraît pas.
La démesure.
La démesure ne me paraît pas, complètement déplacée. C'est une question qu'il faut se poser. Mais enfin, vous voyez bien, on est passé de la macronolatrie il y a quelques mois à un commencement de Macron-bashing. On a connu ça avec Hollande, on a connu ça avec Sarkozy, les dates changent, mais le mécanisme est à peu près le même avec Hollande aussi. Et donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Au fond, nos institutions sont fatiguées.
Les institutions sont fatiguées et la gauche. Thierry Pech, vous dirigez Terra Nova, un think tank, une boîte à idées. Et on a souvent accusé Terra Nova d'avoir vendu des idées de droite à la gauche. Qu'en pensez-vous ?
Non, je crois que nous, on est nés d'une double crise. Il y avait une crise politique en 2007, puisque la gauche venait de perdre les présidentielles, et on pensait qu'elle les avait perdues du fait d'un appauvrissement intellectuel profond. Et l'intention d'Olivier Ferrand, le fondateur de Terra Nova, était, il utilisait ces mots, de rénover, de transformer le logiciel de la social-démocratie. Et puis il y avait une deuxième crise, celle-là on ne l'avait pas prévue, elle allait arriver juste après notre fondation, c'est la crise économique et financière mondiale qui allait atteindre l'Europe et bousculer considérablement le projet européen. Voilà. Donc on est né à l'ombre de ces deux crises et on a essayé, et je crois qu'on est arrivé très souvent, à redéfinir un programme social-démocrate qui supposait une clarification en matière économique. Donc c'est vrai qu'on a mis l'accent sur les questions de compétitivité, par exemple. Olivier Ferrand, Louis Schweitzer, juste avant la mort d'Olivier d'ailleurs, avait publié un rapport sur la compétitivité de l'économie française qui ressemble fort à ce qui s'est dessiné ensuite en 2014-2015 avec un peu de retard, avec ce qu'on a appelé le virage de la politique de l'offre de François Hollande. Moi, je pense pas que
c'est... Virage qui a été critiqué à gauche.
Oui, bien sûr, je ne pense pas que ce soit une politique de droite. Je pense que beaucoup de salariés de ce pays, de gens modestes, d'ouvriers, d'employés, sont conscients que si leurs entreprises ne sont pas compétitives, leurs emplois sont menacés. Et donc, c'est pas une politique de droite ou de gauche, une politique de l'offre. C'est une politique qui est sérieuse, décisive. Après, on a aussi, durant toutes ces années, promu une politique d'investissement social, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs largement dans le plan pauvreté, dans les mesures concernant la petite enfance. On a promu une sécurité sociale attachée aux personnes plutôt qu'à l'emploi. Tout ça sont des mesures éminemment progressistes et que la gauche a mis du temps à adopter, mais que je crois elle doit aujourd'hui épouser sans réserve.
Il y a une note qui a été particulièrement discutée, qui a vraiment fait polémique, une note fournie par Terra Nova en matière de stratégie pour la gauche et notamment pour le Parti Socialiste. C'était en mai 2011, Thierry Pech. Terra Nova proposait dans une note d'en finir avec les classes populaires en matière de stratégie électorale, considérant que de toute façon, le Parti Socialiste ne réussirait plus à reconquérir ces classes-là et qu'il fallait donc adopter une autre politique ou en tout cas envoyer d'autres signaux à d'autres classes. Est-ce que c'est cela qui s'est véritablement dit à Terra Nova? Qu'est-ce que vous en pensez 7 ans après donc cette note qui reste, disons, une date symbolique?
Moi, j'ai toujours pris mes distances avec ce travail. Je l'ai dit publiquement plusieurs fois, donc c'est pas un scoop ce matin. J'ai pris mes distances. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que vous constatez ce qui est vrai que les ouvriers ont aujourd'hui majoritairement des opinions qui sont éloignées des idées progressistes, notamment au plan culturel. C'est pas parce que vous faites ce constat que vous devez vous désintéresser d'eux ou les considérer comme perdus pour la cause. Le rapport en question disait voilà. Les ouvriers en particulier se sont éloignés des valeurs d'ouverture culturelle du progressisme. Et donc, ne perdons pas trop de temps à courir après leur suffrage, parce qu'on courrait indéfiniment et probablement sans y parvenir. Moi, je crois qu'il faut continuer à parler aux ouvriers. Je pense qu'il faut continuer à écouter, à prendre au sérieux leurs expressions, parfois leurs récriminations. Je pense que c'est très important. Et donc, j'avais
au-delà de ça, est-ce qu'il faut leur donner raison quand vous avez fait, pas vous, Thierry Pech, mais quand Terra Nova a publié un certain nombre de notes sur la compétitivité, est-ce que justement la compétitivité, les questions de productivité, de désendettement, toutes ces questions-là, est-ce que finalement elles ne sont pas défavorables à la classe populaire qui devrait être, ou qui pourrait être, le socle naturel du Parti Socialiste?
Non, je ne crois pas. Je ne pense pas ça. Je pense qu'au contraire, les ouvriers, les employés, les salariés du secteur privé, vous savez, on parle de gens qui travaillent beaucoup dans le secteur privé. On ne parle pas de gens qui sont protégés par des statuts. Ils ont tout à fait conscience de la fragilité des équilibres économiques. Ils ont tout à fait conscience du fait qu'il faut que leurs entreprises soient compétitives, se positionnent convenablement sur un marché pour survivre. Et donc, je ne pense pas que ce soit s'éloigner de leurs intérêts et même de leurs craintes que de proposer une politique de compétitivité.
Je continue parmi les notes de Terra Nova qui ont pu faire polémique ou dont aujourd'hui on voit les conséquences, bonnes ou mauvaises, vous jugerez, Thierry Pech. Des primaires pour la gauche à l'élection présidentielle, on voit ce que les dernières primaires ont donné. Alors, il est possible qu'un grand nombre d'auditeurs aient été satisfaits du résultat de ces primaires. J'imagine en tout cas que pour ceux qui sont engagés ou sont sympathisants du Parti Socialiste, le score du Parti Socialiste les a déçus. Est-ce là la conséquence des primaires, Thierry Pech?
Non, pas du tout. Les primaires, ça a une vertu, une très grande vertu, mais une seule vertu, c'est de régler des querelles de famille. c'est de régler des problèmes de leadership. Quand dans une famille politique, des personnalités se disputent sur des ambitions plutôt que sur des idées, eh bien, la primaire, ça sert à les départager. Ça a très très bien marché en 2011. Vous vous souvenez de la première primaire ouverte du Parti Socialiste, c'est-à-dire que pouvaient voter non seulement les militants, mais aussi tous les électeurs qui avaient envie de participer à la désignation du candidat socialiste. Et ça a moins bien marché, évidemment, en 2016, mais pour une raison très simple. C'est que les primaires ne permettent pas de définir les contours d'une famille. Quand les gens ne veulent plus vivre ensemble, c'est pas la peine de faire une primaire. Ça sert à rien.
Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Mais ce qu'il aurait fallu faire, ce qui n'a pas été fait, si vous voulez, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, ça apparaît maintenant à droite, mais c'était vrai depuis longtemps, c'est reposer les problèmes de fond, se mettre d'accord sur les grandes questions. Vous aviez au Parti Socialiste des gens qui ne pensaient plus du tout la même chose sur à peu près tous les grands sujets du moment. Ils pensaient plus la même chose sur l'Europe, ils pensaient plus la même chose sur la façon de piloter l'économie. Ils n'étaient plus d'accord. Et donc on a bien vu que les chemins se séparaient. Benoît Hamon, qui a été élu à cette primaire, s'est empressé passer sa défaite cuisante, certes, à l'élection présidentielle, de créer un autre mouvement à côté du Parti Socialiste. Bon, donc une partie du Parti Socialiste est partie dans La République En Marche. On voit bien que les chemins ont divergé, ont bifurqué. C'est comme ça. C'est pas la faute à la primaire. La primaire n'a été qu'un révélateur supplémentaire d'une crise qui était très vive, mais qui était une crise idéologique, au fond. Bon, et c'est pareil à droite. Alors ça, c'est moins vu ces dernières années, parce qu'on a pris l'habitude de mettre en valeur la crise de la gauche, mais on voit bien que les chemins bifurquent également à droite, qu'il y a une tentation du repli, de la fermeture d'un côté, de la fermeture et de la fermeté, etc. Et puis des gens qui sont plus des gens du centre-droite qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le programme de Wauquiez.
Alors je vais vous poser justement une question compliquée, Thierry Pêche, vous qui dirigez ce think tank Terra Nova qui est là pour servir de boîte à idées à la gauche. Quelles sont aujourd'hui les idées qui pourraient permettre à un programme de gauche de se constituer ? Est-ce que vous les voyez dans le débat public ? Est-ce qu'elles en sont absentes ? Sur quoi faudrait-il qu'un candidat de gauche insiste ?
Je pense qu'il y a une question qui va devenir absolument centrale et qui n'a pas été assez prise au sérieux par les sociodémocrates, c'est la question écologique. Elle n'apparaît pas dans les enquêtes comme la question qui va vous rapporter des voix, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'ici, elle sera centrale, parce qu'on est entré dans l'âge tragique de la transition climatique. Et donc, elle ne nous lâchera pas. Ne pensons pas un seul instant, si l'on est progressiste, que les voies du progrès sont accessibles à des gens qui n'auraient pas un programme de transition écologique ambitieux et courageux. C'est le premier point. Je rejoins sur ce point le discours de quelqu'un comme Nicolas Hulot, notamment au moment de sa démission, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un autre très grand sujet pour les sociodémocrates qui n'a jamais été réellement traité, c'est la mondialisation et ses effets d'appauvrissement sur un certain nombre de catégories sociales et sur un certain nombre de territoires. Mais pour réguler cette mondialisation, parce qu'on en parle depuis des décennies, mais finalement on n'y arrive pas, il faut une Europe beaucoup plus forte. Et là, je suis très inquiet. C'est le troisième point, c'est l'Europe. L'Europe, elle a été secouée gravement par des avaries nombreuses, la crise financière d'abord, mais aujourd'hui aussi toutes les crises régaliennes qui s'impose à elle et pour lesquelles elle n'est pas préparée. Je pense en particulier la crise des réfugiés. Mmh. On a bien vu depuis des mois que cette espèce de balle des égoïsmes auquel on assiste montre qu'il n'y a pas de solidarité européenne. Et si on continue comme ça, l'Europe ne tiendra pas.
Mais alors si on prend deux de ces idées, l'écologie électoralement, ça ne semble pas très payant. Il y a semble-t-il un décalage entre l'écologie dans l'opinion, puisque beaucoup de gens se soucient effectivement d'écologie politiquement, en revanche on ne voit pas la traduction de cela, Thierry Pêche, et l'Europe, elle fait plutôt figure aujourd'hui de repoussoir, vous ne trouvez pas, notamment à gauche ?
On commence par l'écologie. Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est que lorsque vous regardez les choses à l'échelle municipale ou locale, l'écologie c'est très important. Les gens ne voteraient pas aujourd'hui pour un candidat qui leur dirait « je vais supprimer des espaces verts, je vais remettre des routes au milieu de la ville.
» peut-être, aux États-Unis, je crois que j'en connais.
Hein. Eh bien, oui, mais non, les grandes villes américaines ont déjà, je dirais, pris le pli de la question écologique, beaucoup plus que l'administration centrale. Donc, vous voyez, l'écologie, elle est déjà dans les consciences. quand on approche la politique à son niveau le plus concret, le plus quotidien, je pense que ces questions vont entrer maintenant sur la scène nationale. Elles vont y entrer parce qu'on va assister à des catastrophes, à des dérèglements climatiques, et donc il va falloir que les responsables publics en tirent toutes les conséquences et qu'ils cessent de considérer que c'est un supplément d'âme d'être écologiste. Deuxième question, c'était l'Europe.
C'est l'Europe.
Bon, alors l'Europe, elle est confrontée, je disais tout à l'heure, à des crises régaliennes. Or, elle n'a pas été faite pour ça. L'Europe, ça devait être le wagon restaurant du train collectif. Or, aujourd'hui, il faudrait que ce soit la voiture blindée. Cette métaphore, c'est celle qu'employait régulièrement Jean-Louis Bourlange, que je salue à cette occasion. Et ça, on ne sait pas faire. C'est pourtant ça qu'il va falloir réaliser. On publiera dans quelques semaines un rapport, d'ailleurs, sur les questions du droit d'asile en Europe avec l'Institut Montaigne. Il faut trouver des vecteurs de solidarité entre les pays européens pour qu'ils sachent prendre des responsabilités géopolitiques et pour qu'ils sachent gérer leurs relations avec l'extérieur.
À Terra Nova, vous vous occupez beaucoup de politique, mais vous vous occupez aussi de la société. Vous avez publié ce lundi, une étude sur l'entrée en maison de retraite, qui est une question qui concerne beaucoup d'entre nous. Dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut dire que cette entrée marque un passage? Qu'est-ce que vous avez observé au terme de cette étude, Thierry Pêche?
Alors, nous, ce qui nous intéressait dans cette enquête, c'est de savoir comment le choix se faisait. Parce que ce choix, il est toujours fait dans une espèce de pénombre sociale. On ne sait pas si les gens ont vraiment choisi ce qui leur est arrivé. Donc on leur a dit, écoutez, voilà, est-ce que vous l'avez vraiment choisi vous-même? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que vous étiez en capacité de vous exprimer? Est-ce que vous avez subi ce choix ou est-ce que vous l'avez pris de façon concertée avec d'autres? Et ce qui apparaît dans cette enquête, c'est ça qui est intéressant, c'est que chez tous ceux qui nous disent qu'ils seront bientôt concernés, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, 4 fois sur 10, ils nous disent « cette situation sera subie ». Il faudra l'imposer à l'intéressé. Et 2 fois sur 10, ils nous disent l'intéressé n'est pas en situation de prendre la décision. Donc 6 fois sur 10, ça n'est pas un choix, je dirais, consenti, activement consenti. Voilà. C'est ça qui m'intéressait et c'est ça que révèle cette enquête. Alors c'est assez préoccupant, en même temps c'est lié au fait que les gens arrivent de plus en plus tard en maison de retraite. Parce qu'ils ont fait le choix, et on peut les comprendre, de rester à domicile le plus longtemps possible, parce que les politiques publiques y ont aidé, parce que la famille a favorisé ça, et donc ils arrivent plus tard, en plus mauvaise santé, à la fois sur le plan physique et mental.
Sur le plan, en tout cas, de la société, Terra Nova a pris différentes positions qui peuvent être qualifiées de progressistes, sur la PMA, sur le cannabis également. Mmh. Sur le cannabis, par exemple, vous étiez favorable à une fin de la prohibition.
Oui, absolument.
Pourquoi ?
Pour des raisons de santé publique. Pour des raisons de santé publique, parce que il nous semble que le système actuel, où la France a un des plus forts taux de prévalence de consommation de cannabis en Europe, alors qu'elle a le système le plus répressif, on a aujourd'hui une situation qui est vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'on laisse circuler sur le marché des produits de très mauvaise qualité, que personne ne contrôle et qui enrichissent des mafias locales.
Bon, mais
on peut
là...
faire mieux. Et vous avez raison d'utiliser le mot de prohibition. L'analogie avec la prohibition américaine des années 30 est tout à fait pertinente. Quand on a ouvert le marché régulé, on s'en est beaucoup mieux senti.
Bon, mais alors, en tout cas, pour le coup, là, personne dans la classe politique ou presque ne vous suit.
Non, c'est pas vrai, ça bouge. Ça bouge lentement et ça doit bouger lentement. Ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler les consciences au long cours. Donc moi, je crois que il y a déjà un certain nombre de gens qui ont bougé. Il y a pas mal de pays qui sont sortis de la prohibition ces dernières années. Et donc, je pense qu'il faut continuer à argumenter, on s'en occupe.
Thierry Pêche, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Dominique Régnier, qui lui dirige la Fondapol, une boîte à idées de droite. On verra quelles sont les différences justement entre ces deux boîtes à idées. Dans quelle mesure les propositions que vous pouvez faire et le regard que vous portez sur la société, par exemple sur les questions de sécurité et d'identité qui sont au cœur du débat public, dans quelle mesure vous avez un point de vue différent sur ces deux thèmes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et pour évoquer les idées en politique, nous sommes en compagnie de deux dirigeants de think tank classé à gauche, Terra Nova, que dirige Thierry Pêche, qui est en notre compagnie, et Dominique Régnier, que j'accueille. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Fondapol, un think tank classé à droite. Alors, les think tanks, ce sont des boîtes à idées, des associations, des organisations qui produisent différentes études sur des sujets. Mais tout d'abord, Dominique Régnier, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seize et plus généralement à la démission de Gérard Collomb.
je peux juste souhaiter un bon anniversaire à Terra Nova.
Oui, merci.
Ça me fait plaisir.
De toute façon, vous êtes là pour ça.
Non, mais
ça
pas
me... que Dominique
Reynier. Non, je sais bien. Mais je voulais quand même commencer par ça. Et très sincèrement. Écoutez, moi, je connais pas les ressorts secrets, etc. Ça, c'est des choses que moi, j'ai pas comme information, sinon en lisant la presse ou en écoutant la radio, etc.
Non, mais le bilan voilà. politique.
Enfin, en revanche, ce qui me frappe beaucoup, je peux avoir cette réaction, ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous entrons dans une époque où gouverner devient impossible, en quelque sorte. C'est très préoccupant, je trouve. La vitesse à laquelle s'épuisent les capacités à gouverner, la puissance des mécanismes de disqualification, et même la scène qui a été décrite à l'Assemblée nationale sur, au fond, un ton un peu carabin, me fait penser à une propagation de cette dérision que l'on trouve partout et qui s'est insinuée également jusque dans le siège de l'Assemblée et de nos représentants. Il y a une forme de... Comment dirais-je ? Il y a une forme de contradiction entre ce que requiert, quelle que soit l'orientation des titulaires de la charge, ce que requiert en temps et en patience, un effort, une action que l'on ne peut juger qu'après quand même quelques temps, et toutes les forces qui s'activent pour éroder au fur et à mesure que les journées passent la capacité des gouvernants à agir. C'est très préoccupant. On ne voit pas très bien. Ce phénomène s'accélère, je trouve, s'intensifie, et on ne voit pas bien pourquoi les suivants ne seraient pas soumis au même régime, simplement plus intense, plus brutal, plus violent, et comment tout ceci n'est pas en train de consumer le système politique dans lequel nous sommes depuis quelques années.
Françoise Fressoz, dans Le Monde, dit « colon démission », ce qui aurait dû apparaître comme une décision raisonnable, donc se retirer finalement d'un poste de ministre pour briguer un siège de maire, est devenu un crime de lèse-majesté. Il y avait peut-être aussi une faute politique d'Emmanuel Macron.
Attends, alors moi je dirais ça. Il y a aussi une succession, ça a été d'ailleurs dit à l'instant par Frédéric Saïs, il y a une succession qui est de dire aussi François Bayrou a quitté le gouvernement peut-être de façon précipitée, ce qui n'a pas eu là une hypersensibilité à des principes qu'on peut approuver, mais qui ont été peut-être appliqués avec une rigueur extrême. Nicolas Hulot, c'est la punition qui n'est pas méritée. Vous faites venir quelqu'un de la société civile, et on va pas le commenter, ça a déjà été fait, mais moi j'ai trouvé que son départ n'était pas convenable, sa façon de partir n'était pas convenable. Je parle pas de la forme consistant à ne prévenir personne et à le dire à l'antenne, ça c'est tout à fait inacceptable, mais en plus, sa façon de cesser un combat auquel il tient ne me paraît pas recevable, et c'est une punition pour celui qui avait fait confiance en quelqu'un qui vient de la société civile. J'imagine que lorsque vous avez perdu deux ministres comme cela, eh bien le troisième, vous souhaitez, je suppose, réguler, contrôler un peu sa sortie. Parce qu'évidemment, on fait les commentaires que nous faisons aujourd'hui.
Thierry Pêche.
Non, moi je voulais revenir au début de ce que disait Dominique, et que je rejoins sur cette espèce d'érosion extrêmement rapide des pouvoirs les uns après les autres. Sitôt qu'ils sont installés aux commandes, ne se passe pas plus de deux ans avant que, souvent moins, avant qu'ils ne soient l'objet de contestations très vives, très fortes et de toutes parts. Je pense que le régime, je le disais tout à l'heure, le régime est fatigué. Nos institutions sont fatiguées. Personne ne le dit parce que tout le monde se prosterne devant la Ve République. Mais la Ve République n'est plus du tout celle qu'on a vue naître en 58.
Qu'est-ce que vous voudriez, Thierry Pêche ?
Mais je pense que ça n'est pas viable, si vous voulez, que le président concentre autant de pouvoir que le Parlement en ait.
Est-ce
si
que les
peu.
Régimes parlementaires donnaient plus satisfaction ?
Je crois qu'il divisait davantage. Je pense que le pouvoir a vocation à être divisé. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, que la politique est plus efficace quand le pouvoir est super concentré. Je ne crois pas ça. Bon, je pense qu'au contraire, on gouverne le bateau de façon plus raisonnable, plus tempérée, lorsque les pouvoirs sont divisés. Or, ils ne le sont pas. Le Parlement est à genoux.
Un think tank de gauche qui fête ses 10 ans, c'est Terra Nova que représente ici Thierry Pêche, et un think tank de droite, Fondapol. Qu'est-ce qui vous sépare ? Vous connaissez bien les travaux de Thierry Pêche, ceux de Terra Nova, Dominique Reynier. On accuse souvent Terra Nova d'être un sous-marin de la droite dans la gauche, d'être trop social-démocrate. Qu'est-ce qui vous distingue ?
Il m'est souvent arrivé d'être accusé d'être un sous-marin de la gauche dans la droite. C'est pas moutarde, hein, je vous réponds vraiment. Là.
On vit sous l'eau, tous les deux.
On vit sous l'eau, de temps en temps on sort pour respirer un peu. En fait, c'est d'abord le fait d'être un think tank, un cercle de réflexion qui fait des expertises et des recommandations avec des auteurs de rapports qui sont en gros des experts, des académiques. Ça vous place dans une situation qui est, chacun le comprendra, beaucoup moins soumise aux logiques politiques partisanes classiques, qui sont d'ailleurs légitimes, hein, qui ont leur légitimité, clientélistes ou d'équilibre subtil entre des politiques au sein des organisations partisanes. Donc ça crée effectivement des contenus qui sont du coup différents, peut-être recentrés d'une certaine manière, je ne sais pas, en tout cas beaucoup plus argumentés, et donc il nous arrive fréquemment de nous retrouver sur des sujets, non pas pour penser la même chose, mais pour arriver à en discuter tout à fait sereinement et voir ce qui peut nous distinguer ou pas. Ce qui nous distingue, par exemple, sans doute, c'est un rapport à la fiscalité. Je pense que je suis au milieu d'un univers qui est convaincu que la pression fiscale est beaucoup trop forte et qu'il faudrait aller vers une baisse significative du niveau des prélèvements. J'étais, par exemple, moi, hostile à l'idée d'augmenter la fiscalité sur les droits de succession. Ce sont des éléments de ce type qui peuvent nous distinguer. C'est-à-dire, ça a aussi à voir avec l'organisation de l'appareil d'État. Hein. Au fond, la fondation dont moi j'ai la charge, la Fondation pour l'innovation politique, on se définit comme un groupe de réflexion libéral, progressiste et européen. Et dans le côté libéral, on a une vraie un vrai intérêt pour un paradigme économique libéral, ce qui est peut-être, je dirais, pas l'orientation de Terra Nova, peut-être plus social-démocrate.
Quelque chose à ajouter, Thierry Pêche, qu'est-ce qui vous distingue de Fondapol? En quoi êtes-vous à gauche, par rapport à eux, à gauche, dans l'absolu?
Je pense que ce qui nous distingue, c'est qu'effectivement, la Fondapol est plus libérale et nous sommes plus social-démocrates. C'est-à-dire que nous ne nous faisons pas tout à fait la même idée de l'intervention de l'État dans l'économie. Mais ça, c'est un clivage classique, si vous voulez, le vieux clivage entre la gauche et la droite. Alors, on travaille, Dominique Régnier et moi-même, dans une zone largement démilitarisée du débat politique. Et donc, on se parle, on échange des arguments et on apprécie les civilités de la conversation. Bon, mais il y a quand même d'autres éléments qui peuvent nous séparer, et je crois qu'on va y venir tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas la même approche d'un certain nombre de questions culturelles, sur les questions d'identité par exemple. Je pense qu'on doit être assez différent, et ça c'est pas un clivage classique en politique. C'est le clivage qui est venu se surajouter au vieux clivage politique, droite-gauche sur les grandes questions socio-économiques, et qui aujourd'hui divise toutes les familles, si vous voulez. C'est la question de l'ouverture sur l'Europe, c'est la question de la place qu'on donne à l'identité dans la vie collective et sociale, par exemple.
Il y a deux questions qui sont aujourd'hui des questions polémiques entre la gauche et la droite, c'est notamment la question de l'identité. Alors sur cette question, vous avez travaillé, Dominique Régnier. Quels sont justement les points de vue de Fondapol? En quoi y a-t-il une conception qui pourrait être classé à droite de l'identité?
Ah ben, il y a une conception qui peut être classée à droite de l'identité, pas forcément celle que moi je mettrais en avant, mais moi j'ai une difficulté, alors je vais vous dire rapidement, mais j'ai une difficulté avec ce terme d'identité qui, de mon point de vue, ne se rapporte qu'à la personne elle-même, à l'individu. Et donc on peut parler d'identité dans une perspective psychologique et personnelle. C'est plus difficile pour moi de l'appliquer à un groupe. L'identité d'un groupe renvoie à des mécanismes de fusion qui n'existent pas ou qui ne sont pas raisonnables. Par contre, il y a un malaise profond aujourd'hui éprouvé par une partie de la société, d'ailleurs occidentale, quant à l'avenir de sa manière de vivre, de son style de vie, on peut parfois même dire de sa culture. Et là, je me retrouve davantage, moi, dans la description d'une perte, d'une paupérisation qui serait non seulement matérielle, ce que j'appelle moi le patrimoine matériel, mais aussi immatériel, le patrimoine immatériel, et qui laisse les partis classiques désemparés, qui a fait pour les partis populistes, qui a aménagé un espace de monopole dont ils ont largement profité, une rente dont ils tirent encore aujourd'hui les bénéfices, Et là, ça me conduirait, pour ma part, à défendre une politique de la frontière beaucoup plus ferme qu'elle ne l'est pratiquée aujourd'hui, la frontière européenne. Hein, ça me paraît être, moi, une conséquence de cette approche-là, de donner aux Européens du temps en fermant davantage les frontières qu'elles ne le sont aujourd'hui pour éviter, je dirais, la mécanique est très simple, hein, si nous laissons les frontières à ce point poreuses, je pense que nous aurons mécaniquement de moins en moins de démocratie libérale et de plus en plus de démocratie libérale, et à la fin, il n'y aura plus de démocratie du tout, voire plus d'Europe du tout.
Votre point de vue, Thierry?
Je pense que, avec toute l'amitié que j'ai pour Dominique, ce raisonnement est étrange, parce qu'il nous dit, en gros, il faut fermer pour rester ouvert. Si on ne ferme pas les frontières, on ne sera plus ouvert sur les questions démocratiques, culturelles, etc. Je pense que c'est un raisonnement qui est un peu spécieux. Alors, moi, je ne fais pas, contrairement à vous, Dominique, je crois, l'hypothèse d'une panique identitaire ou, pour reprendre vos termes, patrimonial sur l'immatériel que nous avons en commun. Hein. Je ne fais pas cette hypothèse. Je pense que l'opinion a envie que les choses soient sous contrôle, ce qui est très différent. Elle ne demande pas à ce que le monde soit fermé. Je pense qu'on se fait des idées entre éditorialistes, dans le monde médiatique, sur l'hystérisation des sentiments sur ces questions. On a vu en 2017, je prends cet exemple parce qu'il est très récent, on a eu une élection présidentielle au suffrage universel, tout le monde nous disait ça se jouera sur ces questions, ça s'est pas du tout joué là-dessus. Tous ceux qui faisaient le pari, pardon, des passions tristes dans le débat public français, ont perdu leur pari. Il faut quand même tenir compte de ce qui s'est passé. Donc je crois que la demande n'est pas celle-là. En revanche, il y a une demande de contrôle à laquelle il faut répondre, mais ça veut pas dire fermer les frontières, ça veut dire donner aux gens la certitude que les politiques sont efficaces pour accueillir ceux qui méritent de l'aide parce qu'ils sont en insécurité dans leur pays d'origine, c'est le cas de l'asile des réfugiés, accueillir par la migration économique ceux dont on a besoin parce qu'on a aussi des besoins, et en revanche, effectivement, dire on peut reconduire des gens chez eux quand ils ne correspondent pas à ces critères. Bon. On va faire, je le disais tout à l'heure, avec Montaigne, avec l'Institut Montaigne, un travail sur le droit d'asile européen qui reviendra sur ces questions. Mais je pense que c'est ça le nœud de la question.
Alors, et ça, c'est un aspect de la question identitaire. Parce qu'il y a aussi un autre aspect de la question identitaire, c'est l'aspect donc des communautés, dans quelle mesure la gauche a laissé croire qu'une société pouvait être communautarisée. C'est par exemple ce que reproche un essayiste américain, Mark Lilla, à la gauche américaine. Il publie un livre qui s'appelle « La gauche identitaire » et il dit en substance « Ben voilà, Trump a gagné parce que la gauche s'est trop souciée des communautés, pas assez de la société dans son ensemble, comme s'il pouvait y avoir des petites mosaïques identitaires. »
Ça, c'est la gauche américaine. On n'est pas obligé d'importer en France les débats de la gauche américaine et tous les débats de campus américains. Il n'y a pas aujourd'hui en France, si on parle sérieusement, de gens qui défendent le multiculturalisme. C'est-à-dire qui défendent l'idée que les communautés devraient avoir des droits spécifiques. Personne ne défend ça. Je n'entends personne défendre ça. On peut faire comme si ça existait, comme le fait par exemple Laurent Bouvet, qui tape à longueur de temps sur le multiculturalisme supposé de Terra Nova. Mais je veux dire, ni nous, ni personne dans ce pays ne défend l'idée que les communautés devraient avoir des droits spécifiques. C'est ça le multiculturalisme. Donc cessons de créer des faux débats. Ça sont des débats américains. Le débat français n'est pas de cette nature. Et je crois que ce n'est pas la peine de faire comme si des gens proposaient des choses comme ça.
On va demander à Dominique Régnier s'il ne taperait pas un peu sur la gauche identitaire, s'il pense qu'elle existe.
Je pense qu'il y a une tentation sur une partie de la gauche, mais c'est marginal. C'est marginal. Hein. Je peux citer des tentations que l'on voit au sein du Parti communiste, autour de Benoît Hamon. Vous voyez, on est quand même sur des zones qui sont très marginales. Il y a une tentation d'articuler leur discours et leur action à des revendications de type communautariste. Il me semble que c'est vraiment sur les marges de la politique et de la gauche. Par contre, il y a des questions multiculturelles qui se posent en France. Dans le rapport à la laïcité, chacun le sait, hein, le rapport à la laïcité, dans la question de savoir quel est le rapport entre les hommes et les femmes, la liberté d'opinion, je ne vais pas citer Charlie, mais aussi 2004, l'affaire des caricatures, Rushdie, il y a toute une histoire qui a fragilisé chez nous C'est un sentiment, ça, qui peut être patrimonialisé, fragiliser les libertés auxquelles on est attaché. C'est ça qui est nouveau, je trouve, et qui fait référence à des arrivants qui, avec leur culture, pourraient non pas être heureux de nous rejoindre, mais avoir une sorte de prétention à changer les valeurs qui sont les nôtres.
Autre question qui divise, la question sécuritaire. Qu'en pense Terra Nova, Thierry Pêche?
Alors, c'est un vaste débat, je ne vais pas faire en 5 minutes le...
Vous avez fait, je crois, une note.
Absolument, on a fait un rapport en 2016, je ne sais plus, excusez-moi, sur les relations entre la police et la population. Je vous invite vraiment à le lire parce que il cadre bien, je dirais, une autre approche de la sécurité. Notre idée, c'est que la sécurité ne consiste pas simplement à mettre des policiers dans la rue. La sécurité, c'est une coproduction de la police et de la population. Et pour ça, il faut que la police et la population aient de bons rapports. Or, ce qui a été mis en place depuis les années Sarkozy, c'est quand même un écartement, un divorce très souvent, y compris dans les quartiers, entre la police et la population, y compris dans les restructurations des services de renseignement. Enfin, une police qui a de bons rapports avec la population, c'est une police bien informée, c'est une police aidée. Et il fallait pour ça donc reconstituer ce lien. C'est pour ça qu'on a proposé ce qui est devenu de façon très dégradée la police du quotidien de Gérard Collomb. Mais on pensait qu'il fallait revenir à une police, disons-le, de proximité.
Votre point de vue là-dessus, Dominique Régnier, est-ce qu'il y a un impensé à gauche sur la sécurité? Est-ce que là, pour le coup, il y a une vraie différence entre Fondapol et Terra Nova?
La différence entre la gauche et la droite, chacun l'aura mesuré, c'est beaucoup réduite hein, au fil du temps. Ça, je crois que ça a commencé avec Jean-Pierre Chevènement, le virage qui faisait qu'au fond, une gauche très naïve sur ces sujets-là était souvent pointée. Ça s'est beaucoup réduit. Mais surtout, ce qui me frappe, moi, c'est le désarroi en ces matières-là, qui sont devenus des sujets extrêmement compliqués, qui requièrent des moyens considérables, avec des problèmes d'insécurité qui sont multiformes et qui parfois prennent des proportions dont chacun admet le caractère extraordinaire. Je ne fais que prendre la vague des attentats depuis 2015 pour appuyer mon argument.
En conclusion, Thierry Pêche, puisque l'on a beaucoup parlé de ces boîtes à idées spécifiques, les think tanks. Ces think tanks sont donc des associations. Elles ont besoin d'un financement et notamment d'un financement privé. Vous êtes, comme tous les think tanks du monde, financés par des entreprises. Alors, vous recevez des fonds d'Areva, Google, Danone, EDF, etc. Je ne vais pas toutes les citer.
Areva me concernant.
Un ancien mécène, Areva, le groupe casino Ernst & Young, Microsoft, Sanofi,
autrefois,
Vendi.
Pas aujourd'hui.
Oui. Mais en tout cas, ils ont été des financiers ou ils ont financé Terra Nova à un moment ou un autre de votre existence. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème en matière d'indépendance de pensée?
C'est très simple. D'abord, on est les plus pauvres de la place parmi les grands think tanks généralistes.
Vous lancez un appel, c'est normal pour vos 10 ans.
Si vous voulez nous donner de l'argent, vous êtes les bienvenus. On est les plus pauvres, c'est-à-dire que par rapport aux 4 grands think tanks généralistes, on a entre 4 et 7 fois moins de moyens que les autres. Bon, premièrement. Deuxièmement, on fait de la diversification de portefeuille, comme disent les actionnaires. C'est-à-dire que plus on en a, moins on dépend de chacun.
Ces sociétés comme Google, comme EDF, Engie,
Oui, mais regardez par exemple, c'est très bon exemple. Regardez notre production sur la transition climatique et dites-moi si vous pensez à la lecture de cette production qu'on est dans le plaidoyer d'EDF ou dans le plaidoyer d'Engie.
Mais ça,
c'est pas vrai.
Je peux me c'est permettre pas vrai.
Vous pouvez vous permettre de
non, c'est un débat très curieux en France à ce sujet. Moi, on me reproche de recevoir du soutien d'entreprise pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. Qui souvent d'ailleurs soutiennent les différents think tanks parce qu'elles souhaitent avoir des informations différentes ou des interactions différentes. On me reproche aussi de recevoir des soutiens publics au motif que c'est une fondation libérale. On ne reproche pas à un think tank de recevoir un soutien public au motif qu'il pourrait être influencé par l'État. Donc c'est une espèce de débat biaisé qui semble laisser penser qu'il faudrait produire des expertises et des recommandations sans ressources pour être tout à fait indépendant. Il y a une forme d'absurdité et ça reflète beaucoup le problème de cette société avec l'argent d'une manière générale. L'argent venant de l'État est un argent pur en quelque sorte, ce qui est une discussion qu'on pourrait avoir, et devant être réservé à des pensées étatistes, ce qui est une discussion qu'on pourrait aussi avoir.
Terra Nova a fait ses 10 ans, c'est aussi pour cela qu'on vous avait reçu, Thierry Pech, ce matin. Nos démocraties après 10 années de crise, c'est le colloque que vous allez organiser à l'Assemblée nationale.
Oui, on pourra le suivre sur Facebook, en Facebook Live, cet après-midi, pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir nous rejoindre à l'Assemblée.
Avec beaucoup d'invités prestigieux, Pierre Rosanvallon, Amet Intzel, Mickaël Ignatieff, Nicole Notta, Emmanuel Faber, Jean Pisani, Ferry, merci d'avoir été en notre compagnie ce matin. Je rappelle qu'il y a autre chose qui vous rassemble, même si d'autres choses vous divisent. C'est le fait d'être en commun à l'Esprit Public le dimanche à 11h, où l'on peut vous retrouver sur l'antenne de France Culture, bien sûr.